Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Il y a un cri dans mon cœur lorsque je vois, lorsque j'entends, lorsque je parle, lorsque régulièrement je rencontre et je côtoie des enfants de Dieu, parfois qui marchent avec le Seigneur depuis plusieurs années, qui marchent dans les voies de Dieu, parfois depuis 15, 20 ans, et qui toutefois ont comme un nuage constamment sur leur vie, un nuage au-dessus d'eux, sont d'épreuves en épreuves, et je sais qu'il y a des épreuves dans la vie chrétienne, mais qui sont tristes, qui sont abattus, qui sont vaincus. Il y a un cri dans mon cœur, il y a une soif dans mon cœur, il y a un soupir dans mon cœur qu'ils puissent découvrir une vie tellement supérieure à tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Une vie libérée, que même s'il y a des soucis, même s'il y a de l'opposition, même s'il y a parfois des inquiétudes, des pressions qui viennent, des pensées de découragement, il existe une vie chrétienne supérieure. Il existe littéralement une vie chrétienne de victoire. Savez-vous, moi j'ai été élevé dans une famille chrétienne depuis que je suis tout petit. Et lorsque j'étais adolescent, j'étais un jeune homme très mélancolique. J'étais en proie à des moments de mélancolie. Très, très, très forte. Et lorsque j'ai décidé de suivre le Seigneur à l'âge de 14 ans, j'ai abandonné tous mes amis. J'étais dans un gang à l'école. Je me tenais avec des mauvaises personnes. Et le Seigneur a touché mon cœur à l'âge de 14 ans. J'ai abandonné toutes ces choses-là pour suivre Dieu. Et je me suis retrouvé, littéralement seul. Je souffrais quotidiennement de solitude. Le soir, il y avait un système de son à la maison, un système de sono. Et le soir, jusqu'à très tard, le soir, je me branchais sur des écouteurs. J'écoutais de la musique mélancolique. Il pleuvait dehors. Je pleurais. Je savais pas trop pourquoi je pleurais. Mes parents venaient s'asseoir à côté de moi, essayaient de m'aider, de me parler. Christian, qu'est-ce que... Et je me noyais, je me saoulais juste de ma mélancolie. J'étais là-dedans. Et je me souviens, un jour, j'ai voulu me saisir. J'ai parlé un peu avec mon père. Je veux pas l'humilier ce soir. Je veux pas le gêner, mais je savais pas, mais mon père est ici ce soir. Et j'avais pas prévu. Je l'ai pas invité à venir. Et, mais il est ici ce soir. Et je me souviens, un jour, mon père m'a enseigné à marcher. Il avait une expression. Je ne pouvais pas comprendre, saisir, piger la profondeur de ses paroles. Puis il me disait, Christian, on est appelé à marcher dans la victoire. On est appelé des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est appelé à être un chrétien dans la victoire. Puis moi, imaginez-vous un jeune de 14 ans qui essaie de comprendre son père, qui lui dit, marcher dans la victoire. Ça veut dire quoi, ça? Marcher dans la victoire. Puis il me disait, Christian, t'as perdu ta victoire. Faut que tu marches dans la victoire. Perds jamais la victoire dans le Seigneur. Il y a une victoire en Christ. Puis je me dis, c'est quoi, ça? La victoire en Christ. Marcher dans la victoire. Mettez-vous dans la peau d'un jeune, un adolescent de 14 ans, qui se fait dire ça par son père. Marcher dans la victoire. Et là, mon père voyait que je ne saisissais pas. Alors, il m'a dit, je vais t'expliquer. On est descendu ensemble dans le sol. C'est un moment qui a marqué ma vie. Et mon père, on est descendu ensemble dans le sol. Et il y avait un vieux système de son en bas, à un 33 tours, vous savez, avec des vinyles qui tournent. Et mon père avait des vieux vinyles de gospel chrétien qui je comprenais à peine l'anglais à l'époque. Puis il me traduisait un peu qu'est-ce que ça disait. Puis il m'expliquait comment ça fonctionnait. Puis là, vous savez, il mettait le truc dessus. Puis ça commençait, ça disait, I worship you, oh Lord. Puis des vieux cantiques chrétiens. Avec même les colonnes de son, c'était des vieilles colonnes de son en bois, brun, tout ça, poussiéreux. Et mon père m'avait expliqué, il m'avait dit, tu vas mettre de la louange, tu vas louer le Seigneur, tu vas marcher en bas dans le sous-sol, et puis jusqu'à temps que la victoire vienne. OK. Alors, il s'en va en haut, il me laisse là, j'installe le 33 tours. Et là, ça joue, I worship you, oh Lord. Puis là, je marchais, j'attendais la victoire. J'attendais que la victoire descende. Où est la victoire? Et puis là, ça fonctionne. Là, finalement, après quelques minutes, je remonte en haut, je dis à mon père, j'avais pas venu la victoire, elle s'est pas présentée au rendez-vous. Là, mon père essaie de m'expliquer, de comprendre. Mais j'aimerais vous dire qu'à travers les années, tranquillement, je crois que j'ai saisi de plus en plus qu'est-ce que ça veut dire marcher dans la victoire. Et c'est vrai qu'il y a des enfants de Dieu qui ne marchent pas dans une vie victorieuse. Même s'il y a des épreuves, même s'il y a des moments difficiles, nous sommes toutefois quand même appelés à marcher dans la victoire. Et lorsque Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je vous envoie. Alors qu'on va passer ensemble 4 mercredis sur ce texte de Matthieu 10, j'aimerais attirer votre attention ce soir sur une phrase que Jésus a donnée à ses disciples. Lorsqu'il a dit dans Matthieu, le 10e chapitre, le verset 1er, regardons-le ensemble. « Puis Jésus appela ses 12 disciples et il leur donna le pouvoir, ou tout simplement une autre version nous dit, l'autorité. » J'aimerais vous attirer ce soir juste à ce mot. Le Seigneur Jésus, je peux pas refaire mercredi dernier, mais mercredi dernier, on a regardé ensemble ce que la Bible a dit, littéralement que Jésus, une version qui touche beaucoup mon cœur, on a parlé d'étudier la Bible sous plusieurs versions, une Bible, la NIV, New International Version, nous dit que Jésus a appelé les siens à lui. He called his disciples to himself. On a parlé de l'importance d'avoir une communion avec Dieu, on a parlé de l'importance d'avoir une vie de prière, on a parlé de tout ce qui va ressortir, tout ce qui va littéralement sortir comme un geyser d'un enfant de Dieu qui développe une vie, une communion avec le Seigneur. La première étape est d'aller vers le Seigneur. On a parlé de ça ensemble la semaine passée. Et lorsqu'un chrétien commence à s'approcher de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu commence à venir vers le Seigneur, à mettre du temps à part, à s'enfermer avec Dieu, à aller dans le lieu secret, à verser son cœur dans les Écritures et laisser les Écritures être versées dans son cœur, commence à développer une vie de louange, une vie de prière, juste une vie d'intimité avec Dieu, instantanément, sans même que cette personne-là s'en rende compte, il y a un processus spirituel qui n'est peut-être même pas recherché ou désiré, mais il y a instantanément un processus spirituel qui vient s'implanter dans la vie de cette personne-là. Et c'est ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. La Bible dit que Jésus appela ses disciples à lui et leur donna autorité. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne peuvent pas marcher dans une autorité dans la vie parce qu'ils n'ont pas une communion personnelle avec le Seigneur. Mais lorsque nous développons une communion personnelle avec le Seigneur, lorsque vous faites juste vous approcher de Dieu, passer du temps avec Dieu, vous couper du monde, d'Internet, de la télé, des fois, c'est même pas des choses pécheresses, mais c'est parfois juste une gestion de temps. Il n'y a plus de place pour une communion personnelle avec Dieu. Mais lorsqu'on se met à prendre du temps avec Dieu, qu'on entend sa voix qui nous appelle, tout ce qu'on a partagé ensemble mercredi passé, qu'on entend tout simplement Jésus nous appeler à lui, comme il appela ses disciples à lui-même, Jésus nous appelle chacun d'entre nous au lieu secret. Et lorsqu'on y va, il nous attend pour nous donner quelque chose. Il nous attend pour nous donner une autorité. Il nous attend pour nous confier une autorité. Il nous attend pour nous rendre vainqueurs. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de combat. Il n'y aurait jamais dit qu'il n'y aurait pas de maladie. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de blessure. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de trahison. Il n'a jamais dit que la personne que vous chérissez vraiment ne lèverait pas les talons contre vous, comme le roi David a dit, « Celui qui mangeait à ma table a lavé les talons contre moi. » Même le roi David a vu un proche de lui lever les talons contre lui. Jésus n'a jamais dit que la vie serait toujours belle et parfaite et sans problème. Mais il a dit une chose, si tu viens à moi, je vais te donner une autorité pour marcher dans cette vie. Et ce soir, j'aimerais vous attirer à la prière, dans un instant, nous allons aller à la prière ensemble. Mais j'aimerais juste prendre quelques minutes, si on peut prendre un 30 minutes ensemble, 20 minutes ensemble, pour parler ce soir. Arrêter en plein cœur de cette semaine, en plein cœur de toute la panoplie d'activités qu'il y a à l'Église Nouvelle Vie, de différentes réunions, de toutes les activités, de tout qu'est-ce qui peut prendre place. Si on pouvait juste arrêter le temps un instant ce soir et regarder ensemble quelques minutes à l'autorité que le Seigneur veut nous donner. Le principe d'autorité spirituelle se retrouve partout dans la parole de Dieu. Je vais demander à mon frère Simon PowerPoint de me suivre parce qu'on va regarder à plusieurs versets ensemble. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par l'autorité? La première chose qu'il faut bien établir ce soir, c'est qu'est-ce que ça veut dire savoir de l'autorité? La définition du dictionnaire Le Robert nous dit ceci, que l'autorité, c'est le pouvoir d'imposer l'obéissance. J'aimerais vous suggérer ce soir que l'autorité que le Seigneur veut nous donner, c'est de littéralement arriver dans ce monde, lorsqu'il y a de l'opposition, lorsqu'il y a des attaques, lorsqu'il y a des choses que nous sommes... Parfois nous savons qu'on a besoin de s'arrêter, chercher la volonté de Dieu. On n'est pas certain, on a besoin de direction. Mais lorsqu'on a la direction, une fois qu'on a la direction, une fois qu'on sait ce qu'on doit faire, une fois qu'on a bien déterminé ce qui est vil de ce qui est la volonté de Dieu, c'est clair pour nous, on l'a trouvé dans la parole et on trouve opposition. Vous voulez marcher dans la justice au travail, vous voulez marcher dans la sainteté et il y a opposition à votre sainteté. J'aimerais vous dire ce soir, malgré les tempêtes, malgré l'opposition, malgré tout ce qui pourrait venir vous abattre, j'aimerais vous dire, il est possible d'imposer la volonté de Dieu dans le monde. On va voir ça ce soir. Jésus a littéralement dit de prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi est-ce que Jésus a prié ça? Parce que dans le ciel, la volonté de Dieu est parfaitement accomplie, mais elle ne l'est pas sur la terre. Et la volonté de Dieu, l'accomplissement de la volonté de Dieu dans nos vies dépend de notre prière. C'est ce que Jésus a dit. Priez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je prie, si j'intercède, si je presse dans le lieu secret pour la volonté de Dieu, elle va s'accomplir. Je peux amener, je peux imposer le désir, le cœur de Dieu dans mon entourage, dans mon univers, dans mon ministère. Je peux l'imposer le désir de Dieu dans ce monde. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus nous donne une autorité spirituelle. Il veut nous appeler à marcher dans une autorité. Ce qui touche mon cœur, c'est dans la racine latine du mot autorité, nous retrouvons le mot auteur. Le mot auteur nous a donné le mot autorité. Sans auteur, nous n'avons pas d'autorité. Qu'est-ce que l'auteur aux Hébreux nous dit? L'auteur aux Hébreux nous dit que Jésus est littéralement l'auteur de notre foi. Jésus est l'auteur de notre autorité. Jésus a dit à ses disciples de venir vers lui, il leur a donné l'autorité. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel? Toute autorité m'a été donnée. Allez par tout le monde, faites des disciples. Celui qui a l'autorité de Dieu, c'est Christ. Celui qui est l'auteur de l'autorité et du pouvoir, c'est Christ. Lorsque sa nature et qu'il est grandi dans nos vies à travers la prière, la foi, la communion avec lui, l'intimité avec lui, lorsque nous grandissons dans ces choses, dans ces pratiques, alors instantanément et dans la même proportion, l'autorité, la nature de Christ et son autorité grandit en nous parce que l'auteur grandit en nous. L'autorité, instantanément, proportionnellement, grandit en nous. Comprenez-vous qu'est-ce que je veux dire? De la Genèse à l'Apocalypse, le terme de l'autorité est partout. Vous allez voir dans la Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas le temps de faire les survols, on pourrait faire les survols de tous les livres. On pourrait regarder à 66 versets ce soir, un par livre seulement. Et pourtant, presque dans chaque page de la Bible, il est mention de victoire. Il est mention d'enfants de Dieu qui sont appelés à relever la tête. Enfants de Dieu qui sont appelés à rejeter la culpabilité et l'accusateur. De marcher dans la grâce de Dieu, se relever et regarder en avant. Regardez rapidement, on va regarder rapidement, on va faire un survol très rapide. Regardez premièrement Genèse 1, 28. La Bible dit que Dieu les bénit. Savez-vous ce soir que le premier commandement de Dieu, de toute la Bible, n'a même pas été « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même ». La première fois que Dieu a donné un commandement à l'homme, dans toutes les Écritures, la première fois que Dieu a commandé à l'homme quelque chose, c'était d'être vainqueur. Dieu parle à un Adam, une créature qui est déjà en amour avec lui, qui est déjà en communion avec lui, qui est déjà en paix avec lui, qui marche avec lui. Et Dieu les bénit. Et voici ce qu'il leur dit. Remplissez la terre et dominez-la. On aurait pu le traduire littéralement. Dominez-la, virgule, dominez. C'était la volonté de Dieu que sa créature, son enfant, son serviteur domine et une autorité dans le monde. Regarde avec moi Deutéronome 28, 1, lorsque le peuple d'Israël se prépare à entrer en Canaan. Regardez qu'est-ce que ça dit. Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, voyez-vous le parallèle ici avec Matthieu 10? Jésus appela les siens à lui. Il les a appelés, ils ont entendu sa voix à la communion personnelle. Il leur a lancé un appel à venir vers lui. Ils sont venus vers lui, ils ont entendu sa voix, alors il leur a donné autorité. Et qu'est-ce que Deutéronome 28 nous dit? Quel lien hein, avec les évangiles? Si tu écoutes vraiment la voix du Seigneur ton Dieu, alors le Seigneur ton Dieu te rendra supérieur, notez bien ceci, à toutes les nations du pays. Tous les peuples qu'il y avait en Canaan devaient être assujettis à Israël. Regardez Josué 1:5. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Une autre version nous dit, personne va tenir devant toi tous les jours de ta vie. L'appel de Dieu pour Josué était d'être un conquérant pour Dieu, d'être un vainqueur, et nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Ne sois intimidé par personne, ne sois oppressé par personne, peu importe tout ce qui peut t'arriver, je t'appelle à une vie de victoire. Nul ne tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Regarde avec moi Isaïe 40 qui apparaît à l'écran. Tu broieras les montagnes tu les vanneras. Le vent les emportera. Dieu ne vous appelle pas ce soir à détourner les montagnes, à fuir les montagnes, à être intimidé devant les montagnes de travail parfois pour le royaume de Dieu, à être intimidé parfois devant les montagnes d'impossibilité. Mais le Seigneur dit littéralement, je ferai de toi un traîneau qui va broyer les montagnes. Parfois, oui, surmonter les montagnes, mais parfois passer à travers les montagnes. Parfois, broyer les montagnes. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, une vie de joie, une vie de victoire. Regardez ce que Jérémie 10, 2 nous dit. Surtout à la lumière de l'actualité, cette semaine, j'étudiais tout un dossier sur l'instabilité du prix de pétrole dans le monde entier. C'est presque un mystère. Beaucoup se penchent, beaucoup se demandent qui peut vraiment influencer. Il y a tellement de facteurs. Katrina, la fameuse ouragan, influence le prix du pétrole, l'instabilité en Irak, toutes sortes de trucs influencent le prix, l'instabilité du prix du baril de pétrole. On a vu, cette semaine, ça passait aux nouvelles, on voyait des hommes à la bourse littéralement en folie, en train de s'arracher les cheveux de sa tête parce que le baril de pétrole a soudainement monté à 80$ le baril, puis finalement il a redescendu, tout le monde a eu le souffle coupé. Même les propriétaires de raffineries de pétrole sont pas certains de construire parce qu'il y a un manque de raffineries. On a assez de pétrole, mais on manque de raffineries de pétrole. Et même les compagnies hésitent à investir à construire de nouvelles raffineries de pétrole parce que tout à coup, le prix de l'essence chute gravement. On a déjà vécu une grande fluctuation dans les années 80. On ne sait pas. Et la Bible parle d'une chose dans Jérémie 10 qui fait la terreur des nations. Jésus a dit que dans le monde, il n'y a que deux dieux. Tu ne peux pas servir Dieu ou Mammon. On sait que Mammon, c'est le dieu de l'argent. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qui fait la terreur des gouvernements? Qu'est-ce qui fait la terreur des hommes d'affaires? Quelle est la seule chose qui peut faire la terreur des investisseurs et des hommes les plus puissants dans le monde entier? L'argent. Et Jésus regarde à ses enfants, à travers Jérémie. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur de ce qui fait la terreur des nations. J'aimerais vous dire ce soir, peu importe ce qui nous attend au niveau économique dans les prochaines années, les prochains mois, j'aimerais vous dire ce soir, peu importe si tu te promènes en auto, de coup, boum, le prix a explosé à la pompe. La peur, les gens vivent dans la peur. L'économie, leur salaire, perte d'emploi, 2001, 11 septembre 2001, on approche du 11 septembre, ça va tellement vite, ça fait déjà 4 ans. Des gens ont perdu leur emploi, même il y a eu des pertes d'emploi, plusieurs pertes d'emploi au Québec suite à une simple retombée. Savez-vous que 90% des exportations du Québec vont vers les États-Unis? Si l'économie américaine se met à chuter, comment que le Québec va être affecté dans son économie? Les gens vivent dans la peur. Et pourtant, Dieu dit non, pas toi. Pas toi, mon enfant. Ne crains pas ce qui fait la terreur des nations. Regardez ce que Romains 5:7 nous dit. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Et cette abondance de la grâce est répandue dans nos cœurs seulement à travers la communion avec Dieu. À bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ? Il faut comprendre ici ce soir que ça, c'est écrit dans un contexte de persécution. Ça, c'est écrit dans un contexte de martyr. Ça, c'est écrit dans un contexte où des soldats romains fracassaient des portes, prenaient des hommes et des femmes et les amenaient sur le bûcher. Des gens donnaient leur vie pour Dieu, versaient leur sang pour l'Évangile. Et l'apôtre Paul parle, indépendamment de à quel point ça peut aller mal dans ta vie chrétienne, il est possible de régner. Les enfants de Dieu peuvent recevoir une grâce pour régner dans la vie. Regardons en terminant maintenant Apocalypse 12, 10 et 11 nous dit ceci. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Maintenant, je ne dis pas ça ce soir pour pomper une foule. Je dis ça ce soir pour que vous puissiez marcher différemment demain. Puis c'est bien de dire amen à l'église, puis c'est bien d'applaudir, puis c'est bien de se réjouir, puis c'est bien de chanter, puis c'est bien même de s'exciter. Mais je vais vous dire une chose, demain matin vous attend. Dites pas amen. Dites aïe aïe. Demain matin nous attend. Avec nos problèmes, nos soucis, nos pressions, nos inquiétudes, des pensées qui viennent. Parce que là, on parlait des dragons dimanche. Demain matin t'attend. Mais j'aimerais vous dire ceci. Nous sommes appelés en toutes circonstances à marcher dans une vie de victoire et non d'intimidation. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Maintenant est arrivé le salut. Savez-vous de quel moment ça part, ça? Ça ne parle pas de la fin des temps quand Jésus va revenir. Oh, maintenant, le moment du salut est arrivé. C'est pas quand le ciel va s'ouvrir que Jésus va descendre sur son cheval blanc puis qu'il va conquérir toutes les nations puis que l'épée va sortir de sa bouche puis que boum, comme ça, il va détruire tous ses ennemis. Non. Ce verset-là parle de la croix, mesdames et messieurs. Quand ça dit maintenant le salut est arrivé, quand est-ce que le salut est arrivé? Le jour où Jésus est mort et ressuscité. Vrai? Et pourtant, combien de chrétiens ne marchent pas dans cette victoire? Dès le jour où Jésus a donné sa vie pour nous, qu'il est mort et ressuscité, le ciel s'est mis à jubiler. Puis le ciel a dit, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu. » Et qu'est-ce que ça dit? « Et l'autorité de son Christ. » L'autorité de Christ ne viendra pas dans le millénium et à la fin de l'Apocalypse. La Bible nous dit que l'autorité de Christ arrive dans le monde dès le jour de la croix. Et dès l'instant où tu as donné ta vie à Dieu, dès l'instant où tu as mis ta foi dans le sang de Jésus, tu es devenu son enfant, tu as été adopté par lui, instantanément, la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ est déposée dans ta vie. L'ennemi veut pas que tu saches. Il veut que tu continues à marcher avec tout ton armement, toutes tes munitions, toute ta puissance, mais la tête bien abattue. Ne lui dites surtout pas qu'elle est vainqueur. Ne lui dites surtout pas qui pourrait se relever la tête. Ne lui dites pas que ses canons sont remplis de munitions. Chut, il a cru nos mensonges, il pense qu'il n'y a rien. Comprenez-vous? Combien de chrétiens ne savent même pas que leur mitraillette est remplie de balles? Puis s'en vont à la guerre, tout piteux, « Ah, Seigneur, ça va mal, ça va mal. » T'es plein de munitions! Tiens, shoot the enemy! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Go! Ta victoire! Depuis le jour de la croix, that's it, ça y est! Ils l'ont vaincu. Regardez qu'est-ce que ça dit. Pas à cause de leurs bonnes œuvres. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'aimerais vous dire, quand je parle de témoignage, je ne parle pas seulement de raconter ce que Jésus a fait pour toi, qu'un jour il est mort à la croix, qu'il t'a sauvé, t'as mis ta foi en lui, puis t'es né nouveau. Je parle d'un sens beaucoup plus large que cela lorsque je parle de témoignage. J'aime ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Il dit, beaucoup témoignent, mais peu sont des témoins. Beaucoup peuvent témoigner de Jésus, mais peu ont été témoins de la grâce de Dieu dans leur vie. Peu ont été témoins de promesses vivantes à travers la parole qui sont sorties comme un réma, qui a été déposée comme une foi dans leur cœur, la foi pisteuo, qui est une petite variante de la foi pistis pisteuo, qui peut être traduite dépôt. Dieu a pris une parole dans la Bible, un verset les a touchés, ils ont versé une larme, ils ont été émus, l'ont souligné, l'ont mis en jaune dans leur Bible, mais c'était beaucoup plus que des couleurs maintenant dans un livre. C'était pisteuo, c'était un dépôt. Dieu a déposé une promesse dans leur cœur. Ils se sont levés avec foi sur qu'est-ce que Dieu leur a donné. Et ça a été prouvé que c'était Dieu qui leur a parlé. Ils ont vaincu leur monde en témoignant de ce que Dieu leur avait confié dans leur cœur. C'est ça que la Bible dit. J'aimerais vous parler ce soir d'une vie d'autorité que l'on voit partout à travers le monde. J'étais tellement saisi lorsque j'ai vu deux hommes de Dieu qui ne se connaissent même pas parler de cette image qu'avant l'invention des avions, tous les combats de toutes les guerres, de toutes les armées à travers l'humanité se jouaient stratégiquement sur qui allait posséder ce qu'on appelle les hauts lieux, qui allait attaquer l'ennemi de la colline. Du Moyen-Âge jusqu'à ce qu'on invente l'avion, celui qui attaquait l'ennemi d'en haut était toujours prédominant. Avait toujours un avantage. Vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Europe, vous allez voir que souvent, les châteaux forts étaient construits en haut d'une montagne. Et un historien raconte que lors de la guerre de sécession aux États-Unis, entre le Nord et le Sud, et Abraham Lincoln qui désirait libérer les esclaves de l'emprise des sudistes, vous voyez les Yankees qui sont venus attaquer tout ça, alors que le Sud était assiégé par l'envahisseur du Nord, le Sud qui lui était assiégé, avait l'avantage de se préparer au siège. Les sudistes avaient l'avantage de se préparer alors que les nordistes descendaient vers eux. Et ils choisissaient toujours, de façon très stratégique, de se placer en haut d'une colline. Ils se repliaient, se préparaient tout l'ennemi au complet en haut d'une colline. Ils voyaient bien l'ennemi, pouvaient tirer sur l'ennemi, envoyer des bombes, des canons, descendaient vers l'ennemi. L'ennemi devait monter, l'ennemi était exposé du bas de la colline, il était vu. Et pendant des années, Les Yankees ont perdu des soldats, des mères ont perdu leurs fils, alors que le Nord désirait libérer le Sud. Abraham Lincoln, qui était un homme de foi, un homme de Dieu, Abraham Lincoln, un chrétien, un croyant, qui priait, lisait la Bible à tous les jours, et qui était controversé à cause de cette guerre, mais qui désirait tout simplement libérer les esclaves afro-américains, voyait littéralement des milliers de soldats tomber au combat, parce que presque à chaque bataille, on attaquait l'ennemi du bas vers le haut, jusqu'au jour où, pour la première fois, il y a une bataille qui a été historique, un endroit précis, où pour la première fois, les Yankees ont pu arriver à l'avance, surprendre l'ennemi et s'installer sur le haut de la colline de la montagne. Et là, tout s'installer, se mettre en ordre de bataille et attaquer l'ennemi du haut vers le bas. Et cette bataille a renversé complètement. Les Yankees étaient littéralement en train de perdre la guerre. Mais cette bataille a complètement renversé le cours des circonstances. Et nous savons que les Yankees, le Nord, ont gagné, ils ont libéré le Sud. Et j'aimerais vous dire ceci ce soir. C'est la même chose avec le mont Golgotha. Lorsqu'on retrouve un enfant de Dieu qui commence à croire qu'il est appelé à vivre victorieusement, commence à regarder aux situations autour de lui, ses impossibilités, ses soucis, ses questions, ses doutes, les pensées de découragement qui viennent, les pensées de fatigue qui viennent, c'est littéralement une vie où il est appelé à vaincre, mais l'ennemi l'attaque toujours du haut. Et lorsque tout soudainement ce chrétien commence à réaliser que Dieu l'appelle à vivre dans une vie de victoire, une vie de supériorité, comme Deutéronome le dit, à régner dans la vie, à dominer sur l'ennemi, et qu'il se met littéralement à saisir, à croire, attraper cette vie, puis aller à tanner, fini de me laisser abattre, fini de dire j'aurais besoin d'un sien, commence à se lever debout et dire, écoutez, ce soir, je ne veux pas rentrer dans toutes sortes de termes litigieux ou de parler d'antidépresseurs ou de ça, puis certaines personnes vraiment ont peut-être besoin de médication pour une période dans leur vie, mais lorsqu'on commence à se lever et à dire, hey, wow, j'ai un enfant de Dieu, moi, je suis appelé à vivre dans la victoire, c'est vrai, qu'est-ce qui se passe? Une surprise qui se fait dans le camp de l'ennemi. Tout à coup, c'est toi qui se mets à attaquer l'ennemi par le haut. Quand tu te mets à penser, savez-vous, plusieurs chrétiens ont peur de la pensée positive. Ah, c'est nouvel âgeux. Ah, la pensée positive, ça vient du nouvel âge. Puis, ah, les chrétiens qui disent qu'ils sont trop positifs, c'est un peu comme les nouvel âgeux. Puis quand le nouvel âge a comme explosé dans les années 80 et que n'importe quel chrétien essayait de marcher positivement, puis qu'un chrétien se retournait vers un autre chrétien dans les années 80 et lui disait, sois positif, mon frère, écoute, sois positif, Seigneur, t'as vu tout. C'est la pensée positive, c'est nouvel âgeux. J'aimerais vous dire ce soir, la pensée positive, nouvel âgeuse, c'est une imitation de la vie chrétienne. Mais c'est juste faux. C'est une fausseté. Il n'y a pas de fondation à ça. S'il y a un peuple qui devrait être positif, c'est bien les enfants de Dieu. On les a, nous, les vraies raisons d'être positifs. On les a, les vraies promesses pour être positifs. Si vous avez le goût d'être positif, vous avez le droit. Si vous vous dites, hey, soyons positifs un peu, hey, vous avez tous les droits. Moi, je connais à peu près 52 millions de versets qui disent d'être positifs. Tout le livre au complet, il est positif. Fait que si vous avez juste le goût de vous relever la tête et dire, hey, wow, on va être positif un peu. Il ne faut pas que je fasse ça, la pensée positive, c'est un nouvel enjeu. Mais non. C'est biblique. La pensée positive, c'est une imitation de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vraie chose. J'aimerais vous inviter ce soir. Si vous avez à cœur d'être positif, vous avez raison. Dieu vous appelle à être positif. Je suis émerveillé. Je suis dépassé. Je suis intrigué, questionné. Je suis attiré. J'admire. Lorsque je vois même des rapports d'Amnesty International qui nous disent que près de 40 000 personnes chaque année versent leur sang pour l'Évangile, donnent leur vie pour la foi chrétienne, que des hommes dans le fond d'une cellule de béton avec des rats ont une grâce surnaturelle, une force d'être même torturés derrière le rideau de fer de communistes, même encore l'ancien rideau de fer en Russie, et même encore le rideau de bambou qu'on appelle en Chine, dans les pays musulmans, d'être partout à travers les Indes. Lorsque je lis un témoignage d'une jeune fille de 18 ans qui entre dans un village aux Indes, qui se met à prêcher l'Évangile, qu'un homme de 6 pieds 2 la prend par les cheveux et lui fracasse la tête sur sa hutte jusqu'à temps qu'elle tombe comme morte. 2-3 chrétiens la prennent. Ils se replient dans un village voisin. Pendant 2 semaines, ils prient, ils jeûnent. Et lorsqu'elle est remise de ses blessures, elle se relève puis elle retourne dans le village, frappée à la porte de l'homme. Puis elle lui dit, je sais que tu pourrais me tuer, mais c'est plus fort que moi, je veux te dire que Jésus t'aime. qu'un homme tombe à genoux, qu'il donne sa vie, puis qu'il fonde une église de 300 personnes dans ce village. Je regarde à ces gens qui traversent des épreuves, des moments vraiment difficiles dans leur vie. Et je me dis, ils marchent, ils règnent dans la vie. Ils vivent pour Dieu. Lorsque j'étais, il y a deux, trois ans de cela, lorsque j'étais à Lyon, en France, et qu'avec un ami à moi qui a fait toute sa recherche, alors qu'il était ici à l'Institut biblique du Québec, frère Patrice Martorano, qui est aujourd'hui pasteur en France, un homme de Dieu que je respecte de tout mon cœur, que j'apprécie tellement, qui a fait un travail à l'école biblique sur les martyrs chrétiens. Je l'ai lu, j'en étais profondément ému. Et alors que j'étais avec lui en automobile, je lui ai dit, « Hey, t'as fait une étude biblique sur les martyrs à Lyon, à la ville de Lyon, une ville qui a 2000 ans d'histoire, Lyon en France. » Je lui ai dit, « On va être là demain. J'aimerais tellement aller voir le stade des martyrs que tu m'as dit. J'ai vu des photos, tout ça. » Le lendemain, on a dormi seulement 3-4 heures. On était tellement les deux vibrants d'y aller. À 5 heures du matin, on se lève. On avait conduit presque toute la nuit. On a dormi 3-4 heures. On se lève. C'était plus fort que moi. Il fallait que j'y aille. On a passé par-dessus les clôtures tôt le matin, samedi matin, à 6-7 heures le matin. Et j'ai vu ce qui était appelé littéralement le stade des martyrs qui était construit pour martyriser des chrétiens. Les gens venaient regarder ça. Et l'histoire nous dit qu'il y a une jeune femme, puis aujourd'hui ils ont refait le poteau, ce qui s'appelle le poteau de Blandine, alors que les Romains amenaient des chrétiens dans le stade, les torturaient, les persécutaient, et qu'ils n'arrivaient pas à trouver un chrétien qui allait renier sa foi, que les gens dans la foule étaient tellement émus, des dizaines de milliers qui étaient là, des milliers de personnes qui voyaient ça, étaient tellement émus de voir les chrétiens mourir, se tenir, louer le Seigneur en mourant. Plusieurs donnaient leur vie à Dieu dans les gradins. J'ai entré dans une toute petite porte, dans une cellule, une toute petite porte, il y avait une cellule là, puis il reste un peu des vestiges, encore quelques amonts des murs qui sont là. Je me tenais là avec Patrice, puis il me racontait tout son travail, il me racontait toute l'histoire, il y a 2000 ans, les premiers chrétiens comme ils vivaient, j'étais ému aux larmes, alors que je me tenais, puis il me dit, ici, chrétien, alors qu'un chrétien était persécuté ici, un autre chrétien se tenait, puis des soldats romains lui disaient, si tu renies Jésus-Christ, tu n'auras pas à aller là. Puis ces hommes-là, ces femmes-là s'agenouillaient. Ils louaient Dieu, puis ils disaient, je vais y aller. Puis les Romains ne savaient plus quoi faire, alors ils se sont dit, on va chercher des gens qui sont faibles dans leur foi. Des gens qui sont presque chrétiens, à moitié chrétiens. Puis ils sont tombés sur une jeune femme, une jeune adolescente de 15 ans qui s'appelait Blandine. Ils l'ont emportée, ils l'ont torturée pendant plusieurs jours. Elle n'a jamais renié le Seigneur. Peut-être que ça peut paraître comme une histoire un peu sanglante, une histoire un peu triste, un peu d'âme. Savez-vous qu'est-ce qui me fascine? C'est la victoire, cette force, cette grâce que les enfants de Dieu avaient de traverser. C'est au-delà de mon entendement, je n'arrive pas à saisir. Je suis émerveillé, mais je n'arrive même pas à saisir. C'est inhumain, c'est surhumain. De saisir une telle mesure de grâce sur les enfants de Dieu qu'ils pouvaient traverser le feu et les fauves. Et je me dis, Seigneur, c'est ça la vie de règne dans la vie. C'est ça une vie de victoire. J'aimerais vous dire ce soir, peu importe ce que vous traversez, peu importe les pensées qui viennent de découragement, les pensées d'abaissement, de culpabilité, de remords, de pression, de soucis, d'inquiétude, d'angoisse financière, de vie personnelle, de déception, de trahison, peu importe, qu'est-ce qui vous a fait mal? J'aimerais vous dire ce soir. Il existe une grâce de Dieu qui peut être déversée sur vous. Vous pouvez être supérieur. Régner dans la vie n'est pas toujours de repousser l'épreuve, mais régner dans la vie est de traverser l'épreuve et même la maladie physique avec une grâce de Dieu. Lorsque je vois une sœur de l'Église qui a une maladie incurable, qui la détruit à petit feu, que je la vois dimanche après dimanche venir à l'Église, sans, je ne dis pas qu'il n'y a pas de moment de découragement, mais avec une grâce, avec une louange dans sa bouche, avec un sourire sur son visage, je suis dépassé. Mais en même temps, je suis dépassé, je me questionne, mais en même temps, je suis émerveillé. Je me dis, n'est-ce pas là la vie chrétienne? Dans un monde où lorsque les gens vivent parfois des problèmes, ils se mettent à devenir tellement dépressifs, et d'autres, la maladie les saisit, ils se mettent à maudire Dieu. Je suis tellement touché lorsqu'un père chrétien d'un jeune homme qui a attrapé le cancer, un adolescent, qui en descendant les escaliers à la polyvalente avec ses amis, son tibia s'est fracassé, s'est brisé en deux, s'est mis à débouler les escaliers, se retrouve à l'hôpital, puis après quelques examens, on lui a dit qu'il avait un cancer généralisé. Puis il est là à l'hôpital Sainte-Justine, dans la cafétéria, puis il voit une femme assise qui pleure parce que son enfant a leucémie. Puis il s'approche d'elle, puis elle me dit « Pourquoi est-ce que le bon Dieu m'a fait ça? » Puis elle se met à reprocher le bon Dieu. Lui, il peut lui dire quelque chose que moi, je ne pourrais jamais lui dire. Parce que lui vit qu'est-ce qu'est la vie. Puis il lui dit, madame, j'aimerais vous dire, il ne faut pas rapprocher le bon Dieu dans ce moment d'épreuve-là. Il faut rapprocher peut-être tous les pesticides, toute la pollution, tous les trucs que Dieu n'a jamais créés, qui sont là, qui attaquent le corps de nos enfants aujourd'hui. Puis il se tourne vers elle, puis il peut lui dire ce que même moi, je ne pourrais même pas lui dire. J'aimerais vous inviter, plutôt que de reprocher Dieu, de mettre votre confiance en Dieu. Puis aujourd'hui, cet homme-là, à travers les traitements de chimio et tout ça, son fils a été complètement rétabli, grâce à Dieu. C'est pas tout le monde, il y en a que ça finit différemment. Mais j'aimerais vous dire ce soir, il existe une grâce. Grâce de Dieu. Présentement, il y a un réveil en Chine. On ne peut plus compter le nombre de chrétiens en Chine. En 1948, le communiste est rentré. Il y avait un homme qui était là, qui avait 50 ans, qui à l'âge de 35 ans, c'est tellement inspirant pour moi, à l'âge de 35 ans, Henry Nee, qui a été parfois critiqué, parfois perçu un peu comme un auteur un peu mystique, qui était appelé plus tard Watchman Nee, qui a écrit des livres, des bouquins extraordinaires, qui est un homme qui a marqué l'histoire du christianisme mondial. On dit que c'est lui qui a posé les fondations, alors que les communistes entraient, étaient aux portes de la ville de Shanghai, qu'il avait des dizaines de milliers de chrétiens dans son église. Il venait de terminer une construction de 4000 places dans l'église. Les chrétiens se dépêchaient de terminer la construction. Ils savaient qu'ils allaient peut-être mourir en construisant l'église, mais ils n'abandonnaient pas la ville. Il a pris toutes les gens au complet. Dans une dernière réunion, il leur a dit ceci. Les communistes s'en viennent, 1948, c'est terminé. Ils vont probablement détruire l'église. Mais il dit, mais nous avons un plan pour prendre la Chine pour Christ. Quel homme! Il a commencé à leur parler de la persécution de Jérusalem, que lorsque Jérusalem a été persécutée, les chrétiens ont été dispersés, puis ils ont répandu l'évangile partout dans le monde. Puis il leur a dit, j'aimerais vous encourager, vendez vos maisons, déménagez, allez dans les terres de Chine. Et ces gens, alors que lui était pris, qui était amené en prison, ces gens ont commencé à répandre l'évangile en Chine comme jamais ça l'a été fait. Et aujourd'hui, on ne peut même plus compter le nombre de chrétiens qu'il y a en Chine. Watchman Nee, persécuté du fond de sa cellule, en 20 ans de prison, l'histoire des faits, des témoins nous racontent littéralement qu'on ne pouvait pas mettre de garde devant sa cellule. Parce que chaque fois qu'on mettait un garde, le garde acceptait le Seigneur. Puis à la fin de sa vie, on lui a coupé la langue parce que chaque fois qu'il parlait un garde, le garde acceptait le Seigneur. Quel homme de victoire! Quel homme qui régnait dans la vie! Quel homme qui, à travers toutes les épreuves, rendait gloire à Dieu! J'aimerais vous dire ce soir, il existe une vie d'autorité spirituelle. Et je termine avec cette pensée. Ce n'est pas un évangile nord-américain. Ce n'est pas un évangile qui dit que tout va toujours bien aller. Mais c'est un évangile qui dit qu'il existe une grâce de la part de Dieu pour traverser tous les moments difficiles de nos vies. J'aimerais terminer avec cette pensée ce soir. Premièrement, l'autorité dévoilée. Je termine avec ceci. Je vais inviter Stéphane à s'approcher. L'autorité déployée. Pourquoi ce soir? Pourquoi est-ce que Jésus... Vous nous donnez autorité. J'aimerais vous dire bien simplement, car il y a une opposition inévitable. Vous regarderez le texte à la maison, je l'ai étudié plusieurs semaines pour ma vie personnelle. Regardez qu'est-ce que Jésus leur dit. Il leur donna autorité pour chasser des démons. Mon doux. Première chose qu'on voit, la première chose que Jésus leur dit, il va y avoir d'opposition, même surnaturelle. Même démoniaque, ça ne veut pas dire qu'il faut tout démoniser. Ça ne veut pas dire que si tu as perdu ton emploi, que c'est un démon, que c'est pas un patron. Ça ne veut rien dire de ça. Mais il y a parfois, littéralement, dans les pensées surtout, un ennemi qui t'attaque. Un ennemi qui dit « tu pourras pas ». Un ennemi qui dit « c'est impossible ». Un ennemi qui dit « pas toi ». Un ennemi qui dit « d'autres sont appelés à faire des grandes choses pour Dieu, mais pas toi ». Un ennemi qui dit « comment tu vas y arriver ». Un ennemi qui dit que tu es orgueilleux alors que tu as un désir d'être envoyé par Dieu comme les disciples l'ont été. Il y a un ennemi qui vient dans les pensées. Et parfois, lorsqu'on parle de chasser des démons, on s'imagine en train d'imposer, faire d'exorcisme, comme certains ont fait à travers l'histoire de l'Église catholique et même d'autres, d'exorciser d'autres personnes. Mais j'aimerais vous dire ce soir, lorsque Jésus a invité ses enfants, ses serviteurs, à chasser des mauvais esprits, c'est pas toujours de les envoyer de quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup l'expression en anglais, to drive out demons. Conduire dehors les mauvais esprits. J'aimerais vous dire parfois, la première place qu'il faut les inviter à juste quitter, c'est dans nos pensées. Drive out demons. Pensez de découragement, pensez d'incapacité, pensez de ci, pensez de ça. Si Jésus veut nous inviter à marcher dans l'autorité, c'est parce qu'il y a une opposition qui est indéniable. Jésus parle de villes fermées. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Avez-vous déjà pensé à ça? C'est super encourageant pour les disciples. Imaginez-vous, nous on connaît l'expression, un loup dans la bergerie. On sait qu'un loup dans la bergerie peut dévorer toute la bergerie. Mais Jésus dit à ses disciples, moi là, toi le super prédicateur, jeune homme de Dieu qui a le goût de transformer, d'atteindre le monde pour Jésus, tu t'en rends pas compte dans le fond. Mais il y a tellement de problèmes dehors. C'est tellement pas évident. Jésus n'aurait pas été bon vendeur d'assurance. Il y a tellement de problèmes dehors que c'est le contraire. C'est comme si je déposais un mouton dans une meute de loups. Ils vont te dévorer sans moi. Mon Dieu, les disciples devaient regarder Jésus, le blanc. C'était tout un appel, hein? Je vous envoie. Hallelujah. Allez changer le monde. Allez faire des disciples partout à travers le monde. Vous êtes comme des moutons dans une meute de loups. Il va y avoir d'opposition. Inévitable. Jésus dit, prenez garde aux hommes. Il dit, on va vous traîner devant des tribunaux. Il parle de persécution. Il parle de famille brisée. Jésus, tout simplement, dit, la vie chrétienne, ça ne sera pas toujours facile. La première raison pour laquelle on a besoin de marcher dans une autorité spirituelle, c'est parce qu'il y a des moments d'opposition. Ce n'est pas une autorité pour justifier un mauvais comportement. Ce n'est pas une autorité pour être au-dessus des lois. Ce n'est pas une autorité pour être au-dessus des autorités. Au contraire, c'est une autorité qui nous donne une puissance de nous soumettre aux autorités, même dans les moments d'injustice. Ce n'est pas une autorité pour assouvir nos désirs charnels et personnels. Ce n'est pas une autorité pour justifier une rébellion qui est une problématique dans l'âme. La seule chose que l'on voit, c'est que c'est une autorité pour les autres. Ce n'est pas une autorité qui est égocentrique. C'est une autorité qui est là pour apaiser, pour guérir, pour aider ceux qui sont infirmes. Si Christ veut vous donner une autorité spirituelle, c'est pour aider les autres alentour de vous. Si Christ veut vous bénir, vous faire marcher dans une vie de victoire, c'est exactement comme les disciples. Je vous envoie, mais allez les guérir. Allez vers ceux qui sont infirmes. Allez vers ceux qui sont tourmentés. Il y a des gens alentour de nous qui sont tourmentés. Tourmentés par les soucis de la vie, les démons de ce monde. Et le Seigneur nous envoie dans leur vie pour les apaiser, leur donner une parole de vie, relever celui qui est découragé. C'est ça la vraie vie d'autorité. S'il y a une femme qui a touché ma vie, c'est une femme que j'ai côtoyée, Justine et moi, que nous avons côtoyée il y a peut-être une dizaine d'années de cela, dix ans vraiment de cela, en Haïti, alors qu'on était là pour plusieurs mois de voyage missionnaire, qu'on habitait dans la maison de missionnaire et qu'il y avait une dame qui s'appelait Madame Loulou, qui était une haïtienne, alors que les missionnaires, c'était tellement important pour eux de créer de l'emploi, engager un jardinier, ils avaient engagé Mme Loulou pour s'occuper de leur maison. Mme Loulou était une femme au Caire, dans le sud d'Haïti, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Son mari ne pouvait pas lui donner d'enfant. Et dans la culture là-bas, c'était une honte pour elle de ne pas avoir d'enfant. C'est la fierté d'une femme d'avoir plusieurs enfants. En plus de cela, son mari n'était pas chrétien. Son mari buvait. Il ne pourvoyait pas aux besoins de la maison. Il buvait, c'est un homme qui était alcoolique. Dans la petite communauté du village, il y avait beaucoup de pression sur elle de juste quitter son mari. Mais au lieu de cela, elle a commencé à se lever tous les matins à 5 heures, aller à l'église, ouvrir les portes de sa petite église du village et prier Dieu 3 heures de temps tous les matins. 5 heures, 2 heures de temps, 5 à 7, à tous les matins. Puis elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Le Seigneur a commencé à déposer une grâce dans son épreuve. Elle a commencé à briller. Le Seigneur a commencé à relever sa tête. Puis au lieu de s'apitoyer sur le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, elle a commencé à avoir des petits-enfants qui étaient orphelins dans le village. Puis dans ces années-là, en Haïti, il y a eu une grosse tempête, il y a eu une traversée, c'était un moment très difficile, il y a à peu près une quinzaine d'années, là. Il y a une traversée qui a coulé, puis il y avait des centaines d'Haïtiens sur cette traversée-là. Et sur la région, ça l'a fait des milliers, des centaines de petits-enfants orphelins. Elle a commencé à adopter des petits-enfants. Puis elle a adopté 10 enfants, un après l'autre, elle les adoptait. Elle n'avait pas d'argent pour les nourrir, elle n'avait pas rien, elle vivait dans une petite hutte. Mais le Seigneur a déposé tellement une grâce sur elle, puis à travers sa communion avec Dieu, elle marchait tellement dans une vie d'autorité. Il y a des missionnaires qui ont entendu parler d'elle, cette femme courageuse qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Il l'a embauchée, il lui a donné un salaire. Puis au lieu de tout mettre dans ses poches, elle a commencé à bénir les jeunes, à prendre soin d'eux, à les nourrir. Mais il y avait quand même des moments de foi, des fois. Puis elle racontait qu'un soir, alors qu'il est arrivé une situation où que je crois que son mari avait pris l'argent, il ne pouvait pas nourrir, puis elle avait dit aux enfants, on va mettre la table. puis les dizaines d'enfants avec son mari s'assoyaient, puis son mari riait un peu d'elle. On va manger quoi ce soir? On n'a rien à manger. Même les enfants, maman, vont manger quoi ce soir? Elles vont faire confiance au Seigneur. J'aimerais vous dire que partout dans le monde entier, présentement dans l'ombre, il y a des héros. Il y a des femmes de Dieu qu'on ne verra jamais dans un magazine, mais ce sont des héros de l'ombre. Elle a dit, Jésus va nous nourrir. Puis elle a rendu grâce. Puis lorsqu'elle a dit Amen, quelqu'un a frappé à la porte. Puis c'est des gens qui sont venus avec tout un repas, ils avaient tué un cochon, puis ils avaient amené le porc, toute la nourriture pour toute la famille avec le riz, tout ça. Puis les enfants, ils riaient. Puis tranquillement, à travers les années, elle a mis un petit peu d'argent de côté. À chaque fois qu'elle arrivait à mettre de l'argent de côté, elle avait un rêve. C'était plus que juste être là pour ses enfants. Elle voulait être un témoignage pour Dieu, pour tout le village. Puis elle mettait de l'argent de côté. Puis en Haïti, l'eau est précieuse. Puis elle payait, à chaque fois qu'elle avait un peu d'argent, elle payait des hommes qui venaient creuser à la main pour forer un puits. Puis lorsqu'on était là, nous, on quittait, on revenait, pour, on terminait notre voyage missionnaire. Puis elle savait rien. Puis elle était devant nous, puis il y avait Justine et moi, on était assis dans le sofa, puis elle nous racontait toute sa vie, son témoignage. Nous, on pleurait comme des enfants. Hein. Puis là, elle nous disait, et là, je prie. Elle dit, je sais que le Seigneur va me donner, je ne sais pas quand, mais il manque juste 100 US pour qu'une compagnie vienne, coule le béton, finisse le forage du puits, puis il va y avoir une source d'eau pour tout le village, l'eau de source pour tout le village. Nous, on se regardait, je le dis comme ça, mon Québécois, on capotait. Elle nous a quittés, puis le lendemain, c'est la dernière fois qu'on la voyait. Puis nous, il nous restait 100 US dans nos poches avant d'en venir au Canada. Puis il n'y a même pas besoin de prier, là, on savait qu'est-ce qu'il fallait faire avec. Puis le lendemain, on est parti en moto, on est arrivé dans sa petite hutte, puis on lui a donné 100. Puis là, elle a dansé, mais elle n'était pas super surprise. Elle savait, elle dit, « Ah, je savais, Dieu va pourvoir. Dieu est toujours pourvu, il va toujours pourvoir. » Il y a des gens présentement, même dans des pays du tiers-monde, qui sont des exemples pour nous, qui vivent dans une foi, qui règnent dans la vie, qui marchent dans une autorité. L'autorité leur a été dévoilée, et maintenant, ils déploient l'autorité de Dieu. Je vais vous inviter à marcher dans une vie d'autorité.